Et vous écoutez France Culture. Le cinéma est autant un moyen d'expression que d'exploration. Jacques Audiard. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui se livrera ce soir en sa compagnie à l'exploration de l'univers de Jacques Audiard, un monde de blessures et de hantises, de combats enragés et de parcours initiatiques, la constitution d'une véritable vision de l'homme dialectique et tragique, déployée à ce jour sur 8 longs métrages à l'affiche donc ce soir, Jacques Audiard à Mauvais genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre sur France Culture qui reçoit donc Jacques Audiard, que je salue, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à Mauvais genre, émission que vous connaissez déjà pour l'avoir suivi à une certaine époque.
Oui, oui, beaucoup.
Beaucoup, et avec
quand
profil.
C'était le soir, oui, bien sûr, absolument.
En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et vous êtes le bienvenu. Nous serons en compagnie, bien sûr, de Philippe Rouillet.
Bonsoir.
Bonsoir Philippe Rouillet. Alors Jacques Audiard à Mauvais genre, c'est un peu, comme se doit.
C'était une nécessité, une envie. On en parlait depuis longtemps, et puis voilà, ça se concrétise ce soir. Donc
c'est bizarre de dire Jacques Audiard à Mauvais genre. C'est Jacques Audiard à Mauvais genre ou voilà. La Mauvais genre.
Est-ce qu'il y a un accent ou non?
Oui, je vous pose la question.
Voilà, on y
répondra. C'est ce que nous allons développer dans les heures à venir.
Voilà, c'est la réponse que l'on espère avoir à la fin de cette émission. En tout cas, merci d'être avec nous. Une émission que nous commencerons bien évidemment. Bonsoir Céline.
Bonsoir François.
Par l'ouverture solennelle de notre encyclopédie pratique des mauvais genres avec ce soir...
Avec ce soir une artiste qui s'appelle Cécile Borne et qui expose son travail en ce moment à Roubaix au musée La Manufacture. Le titre de son exposition, Tissu mémoire, archéologie de l'abandon.
C'est l'hiver, parce que c'est souvent en hiver que ça se passe quand même. C'est pas la plage qui sent la crème à bronzer, tout ça, non. C'est pas là que ça se passe. Et donc je marche assez vite en général. Il y a des endroits où je sais que j'ai des chances de trouver. C'est des coins, c'est comme les champignons. C'est une question de courant. En fait, il y a des courants qui amènent ce genre de déchets à certains endroits. Donc j'ai des coins où je passe régulièrement. Souvent, il y a juste un petit bout qui dépasse, par exemple, qui dépasse du sable. Et là, j'entame un travail d'archéologue, en fait. Si je tire sur le tissu, il va se déchirer. Donc, il faut que je désable autour. J'enlève petit à petit le sable avec une petite cuillère. Petit à petit, des fois, si c'est un vêtement qui est grand, qui est entier, par exemple, une vareuse, où le sable s'est glissé dans les manches, c'est extrêmement lourd, donc ça prend du temps. Et des fois, la mer est plus rapide que moi. Donc elle monte aussi assez vite. Et des fois, il arrive que je dois interrompre mon travail parce que la mer va plus vite que moi. Et puis que quand la mer est dessus, je peux pas continuer. Donc je repasse le lendemain. Il y a plus rien. Personne ne les voit. C'est une matière invisible. C'est une guenille englée dans le sable. C'est pas très attirant forcément. Et effectivement, c'est à terre, c'est gisant. Je les recueille, je les rince, je les fais sécher, et là ça commence à parler. Ça commence à dire des choses. On se rend compte de toutes les traces qui se sont déposées sur le tissu. Elles sont nombreuses. Il y a plusieurs strates mémorielles comme ça qui s'empilent. Et ce sont toutes ces traces de l'humain en fait qui me parlent, qui m'intéressent. Donc, ce que je trouve, effectivement, c'est beaucoup lié à au bateau, à la pêche ou à la marine marchande. Donc, ce sont des cirés de marins qui, quand ils sont trop usés, passent par-dessus bord. Ou des chiffons aussi qui ont servi pour la peinture, le cambouis, etc. Et qui également passent par-dessus bord lorsqu'ils ont fait leur travail. Et après, c'est la mer qui les travaille. Avant que je ne passe par là.
Qui leur donne des couleurs différentes, des matières différentes?
Oui, c'est comme si la nature reprenait ses droits. En fait, ça redevient une matière presque organique. Il y a des fois des petits coquillages qui se sont incrustés dedans, ou des fragments d'algues, et puis l'usure, c'est une espèce de grande lessiveuse, la mer. C'est une grande lessiveuse, et donc elle va imprimer aussi une teinte plus organique, elle va casser les blancs, elle va aller vers les ocres, les gris, et elle va donner aussi une matière particulière au tissu.
L'exposition Tissu mémoire archéologie de l'abandon présente ainsi les bonnes pêches de Cécile Born et vestiges de monde flottant. Il y a des tissus en aplats, d'autres en volume, il y a des ficelages, des compositions qu'elle crée à partir de formes, de couleurs ou de types de vêtements. Et à partir de cette matière première, l'artiste reconstruit un univers où la mer et l'humain se répondent et dialoguent. Sur les fragments de vêtements, on découvre des traces de couture, de reprise, des traces de transpiration, des indices qui nous parlent de la personne qui les a portés. Et on se surprend alors à partir, à divaguer en contemplant ces tissus et à s'inventer des récits de vie ou des histoires de marins. Tissu, mémoire, archéologie de l'abandon est le titre de l'exposition de Cécile Born, une exposition qui se tient à Roubaix, à la Manufacture, le musée de la mémoire et de la création textile, à voir en ce moment et jusqu'au 20 janvier, et aussi l'occasion de visiter ce musée, une ancienne usine textile qui présente et fait fonctionner des machines de tissage du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et pour plus d'informations sur l'univers de Cécile Born, son site internet cecile.born.free.fr et sur la Manufacture, lamanufacture-roubaix.com.
Merci Céline pour cet entrée.
Cécile Born,
de notre encyclopédie des mauvais genres. J'ai vu que Jacques Audiard prenait des notes. Alors, je ne vais surtout pas lui demander quelle note il a pris. Allô, c'est le grand secret.
C'était pour les courses que je dois faire demain. je trouve ça très... C'est magnifique ce qu'elle fait, cette Cécile. Il y aurait un truc formidable, ça serait de faire la même chose sur les côtes grecques et siciliennes en ce moment.
Qu'est-ce qu'on récolterait ?
Des gilets de sauvetage, ouais. il y aurait une dialectique de la mer et de l'humain absolument épatante.
Alors maintenant, elle travaille aussi sur les déchets de plastique, et encore une autre chose que la mer nous recrache.
Il y a un territoire immense qui s'ouvre. Ça
vous arrive de longer la mer et de ramasser des objets ? Vous êtes genre des cueillettes, des
maisons ?
Non. Et tourner au bord de la mer, ça, par contre, ça vous arrive ?
J'ai peur de la mer, moi, donc globalement.
Ah oui ?
Non, je plaisante, mais non, très peu. Ça m'est arrivé là, sur Sisters, où j'ai fait le Pacifique à la Canoë-Océan. Ce qui dénote une perversion. Au-dessus d'une plage de touristes, de nudistes allemands. Alors, la palette graphique vous offre quelque chose, c'est de gommer le nudiste allemand. Mais voilà.
Et de Rouillé d'Os, là, par contre, c'était la plage.
De Rouillé d'Os. Ah, pardon, oui, c'est vrai. Ça, c'était Cannes, c'était le sud. Oui, je suis pas intarissable sur la plage. Je suis désolé.
Très bien, bon,
on
va
sur les tissus rejetés par la mer. La
j'ouvre. Je trouve ça très très beau. Ça me rappelle un petit peu le travail qu'a pu faire une artiste. C'est autre chose, peut-être, mais quand ça ressemble à ça, un peu chez la X, des gens comme ça. Et je trouve ça très beau. Mais je plaisante qu'à moitié en parlant de ce qu'il y aurait à faire. Il y aurait véritablement une espèce d'archéologie. Alors, c'est un oxymore, une archéologie contemporaine sur ce qui est en train de rejeter la mer, la Méditerranée, notre mer à tous, sur les îles. Il y aurait une histoire à faire de ça. Je lance un sujet comme ça.
Voilà, vous le ferez peut-être un jour, qui sait. Jacques Audiard est donc ce soir l'invité de Mauvais Genre sur France Culture.
Le service que je t'avais demandé.
Quel service ?
Les loyers du couscous, là, le mec qui me recule depuis 6 mois.
Non, je suis désolé, j'ai pas eu le temps.
Pas eu le temps. T'as le temps de voir l'autre compte, t'as le temps de te monter la caisse avec tes conneries de piano. Moi, je te demande 20 minutes dans ta vie, t'as pas le temps.
Bon, ça va, tu vas pas m'enfermer de pendule. J'ai oublié. Je vais aller voir ton mec, comme ça, on va peut-être pouvoir parler d'autre chose.
Bah, c'est pratique, t'as juste à traverser.
Faut qu'on trouve des mecs qui stockent et des mecs qui vendent. Nous, on s'occupe d'approvisionner. On monte des convois, on va chercher le matos direct à la source. Juste dans des contacts, on va. Faut 3 bagnoles, des grosses gammes. Paris-Marbella, c'est 1800 bornes, on les fait dans la nuit. Une bagnole devant pour ouvrir la route. 15 bornes derrière, tu mets la bagnole chargée. Et encore derrière, une bagnole escorte.
Arrête de bouffer ! Tu me regardes et... Paf, je suis dans mon froc. Allez, regarde-moi.
Allez. Qu'est-ce que tu fais là?
Je t'ai pas demandé de faire le con, je t'ai demandé de me faire peur.
Dis-moi des trucs.
Des trucs violents. Putain, mais tu... Mais tu me le rends, mon pognon, tu me le rends, je te casse la gueule, je fais des confettis avec ta petite tête de merde.
Allez, viens, viens, dis-moi.
Dis. De toute façon, si tu me rends pas le blé matin, on va te tuer.
Tu me regardes.
On va te tuer. Moi, je te casse la tête, tu me le rends, mon pognon? Comment ça, jamais? Tu vas pas me le rendre, mon pognon?
Arrête.
Oh, le mec...
Arrête. Maintenant, tu me frappes. Frappe. Allez, tape. Allez, tu me frappes, là. Allez, tape. Allez.
Arrête, je vais pas te taper. Arrête, je vais pas te taper, Marx. Pourquoi?
Voilà, De battre mon cœur s'est arrêté, Un prophète et Regarde les hommes tombés, trois films de Jacques Audiard, trois univers et trois dialogues pour engager notre rencontre ce soir avec lui, Jacques Audiard, que nous limiterons, avec des guillemets, Philippe Rouillet, à ses 8 longs métrages, parce qu'on aurait pu parler d'autres activités de Jacques Audiard.
Des origines, parce que alors, d'abord des études de lettres et puis après le montage. Le montage, notamment sur Judith Terpauve de Chéreau, mais aussi Le Locataire de Polanski. 5 ou 6 années de montage, j'ai lu, et avec cette idée que vous y avez tout appris des techniques du cinéma.
Oui, j'ai appris beaucoup de. Oui, le montage, ça a été. C'était un lieu très très instructif pour moi. Je crois que j'ai fait ça pour ça aussi.
Comme une école de cinéma.
Oui, mais comment aller au montage, enfin faire du montage, c'est refuser quelque chose, c'est refuser le plateau, c'est refuser ça. Ça, bon, j'étais assez décidé. Et donc, oui, le montage m'a énormément appris parce que c'est une place. Je pense qu'aujourd'hui la question, ça se poserait différemment avec le numérique où la chaîne professionnelle n'est plus exactement la même. Où l'assistant ne fait plus le métier que moi je faisais. J'étais assistant, c'est plus du tout les mêmes choses. Mais quand on était au montage, c'est vrai, on avait une vue scopique de l'ensemble des choses. Et moi, j'avais cette espèce de refus. Le plateau ne m'intéressait pas, je veux dire, pas du tout.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'après ces années de montage, vous faites des années, ou peut-être ça se chevauche, des années de scénario.
Avant, excusez-moi de vous couper, mais avant, je passe par le théâtre. Je fais 2-3 ans de théâtre avec un ami, avec Louis-Charles Sirjac. On est à l'époque, c'est Saint-Denis, au théâtre de Gérard Philippe à Saint-Denis. Et on fait 2 années, je sais plus si c'est de suite ou pas, mais 2 fois, une fois ou 2 fois pour le Festival d'automne.
Ah oui. Mais là, coltinez la scène, enfin.
J'étais à la fois, j'étais un peu tout. J'étais assistant de Louis Charles. J'étais dramaturge. J'écrivais. Enfin, j'adaptais. Et puis j'étais aussi régisseur lumière. Je faisais un peu tout.
Donc c'est une manière quand même de presque tourner autour de la mise en scène, c'est-à-dire de l'aborder sous des angles.
Oui, sans doute. Mais je pense que si on en avait parlé à l'époque, l'idée de la réalisation ne m'était pas venue à l'esprit, mais du tout. Non formulé peut-être. Après, bon, l'inconscient est idiot, mais non, c'était pas mon projet. Le théâtre m'amène à quelque chose, c'est à l'écriture d'une certaine façon. Donc je commence à écrire pour Bruno Bayen, pour des gens comme ça, pour Gérard Mordillat, tiens. Je me souviens, Vive la sociale. Ah oui. Et puis voilà, ça s'enchaîne. Je fais quelques scénarios avec mon père.
Donc Michel Audiard, dont Mortelle Randonnée, dont nous avons beaucoup parlé ici.
C'est un de nos films cultes
à mauvais genre. On adore.
On en reparlera un jour, mais c'est vrai que c'est un film qui nous a beaucoup marqué.
On en reparlera, si vous voulez bien. Effectivement, le théâtre m'amène après au scénario. Et en fait, après, je crois que tout ça se... se métabolise un petit peu, c'est-à-dire que la pratique du montage rejaillit, enfin, rejaillit sur l'écriture d'une certaine façon, ou c'est ça, la fertilise, ou je sais pas quoi. Mais quand même, tout ce parcours-là se fait de manière assez inconsciente. On ne sait pas.
Et du coup, qu'est-ce qui va être le déclic pour Regarde les hommes tomber? Donc, le premier long métrage, le déclic, 94 à Cannes, semaine de la critique.
Le déclic est assez, j'arrive même pas encore à vraiment analyser la chose. C'est qu'à l'époque, quand je dis nous, nous sommes scénaristes, nous sommes même un trio. Il y a Alain Lehenry, qui est scénariste assez reconnu, avec lequel j'ai l'habitude de travailler. Il y a Didier Hautepin, qui est scénariste et réalisateur également. Et puis on a créé une maison de production pour faire du développement de scénario. Et il est évident que le développement de scénario, ça ne marche pas. C'est dur aujourd'hui. À l'époque, c'était carrément impossible. Donc très très vite, on se retrouve devant une difficulté. Et là, il faut qu'un film se réalise vraiment au sein de la société. C'est mécanique.
C'est vital. Oui.
C'est vital. Et donc Didier n'avait plus du tout envie de réaliser, parce qu'il était juste en train d'éponger les dettes de son film précédent. Que Alain était scénariste et purement scénariste, n'avait absolument pas le désir de réaliser. Et c'est un petit peu comme si les regards, comme ça. Et toi, Jacques? Et là, en fait, la question, c'était est-ce que vous avez lu, est-ce que t'as lu un sujet, ou est-ce que t'as une idée? J'avais, à l'époque, je lisais pas mal de séries noires, qui est vraiment une littérature dédiée. Et j'avais lu effectivement un trio, je crois que c'était un trio sans espoir. Voilà. Et j'ai dit oui, j'ai lu ça. Donc voilà, et c'est parti comme ça. Et donc ils m'ont dit mais tu vas le réaliser. Je dis non, tu vas le réaliser. C'était presque un impératif. Et ça s'est fait comme ça. Et moi avec l'assurance qu'ils allaient m'aider quand même à le faire. Et donc voilà, c'est une chose assez frappante pour moi, c'est que je ne me suis pas désigné, on m'a désigné.
Mes
relations avec les
femmes. Dans l'arène.
Le film a été un choc terrible dans le cinéma français. Enfin, je veux dire, le film a été très bien accueilli, donc, à la semaine de critique à Cannes.
Vous en parlez comme ça avec, d'abord, je suis très touché qu'on en ait ce souvenir-là. Moi, je me souviens j'étais tellement honteux du film que à la sortie d'une projection avec Didier Hautepin, je lui ai dit, tu sais, je crois que ce serait bien, est-ce qu'il y a une solution pour ne pas le sortir? Et il m'a dit, tu sais, la projection, c'était pour, je crois que c'était la troisième chaîne. Je crois qu'il n'apprécierait pas trop.
Mais vous savez que c'est exactement ce que disait Alain René, qui lui aussi a commencé par le montage. Et jusqu'à la fin de sa vie, à chaque fois qu'il faisait un film, à la sortie de la première projection, il demandait très très souvent à son producteur, est-ce que tu crois pas que... Il a même proposé une fois de racheter.
Oui, mais moi aussi, de rembourser, moi aussi, ça m'a bien sûr.
Et qu'est-ce qui vous rendait honteux?
Vous savez, c'est difficile, c'est un rapport avec ce qu'on met hors de soi et la façon ça, dont on le regarde, où tout à coup on se dit, oh mon Dieu.
J'aimerais bien qu'on évoque aussi que...
Et que c'est, excusez-moi, et après c'est un film qui avait été, c'est un premier tournage, un premier film, c'est un film qui a été difficile à faire, où il n'y avait pas d'argent du tout, donc la question d'un certain jour, c'était pas ce qu'on allait tourner dans la journée, c'était plutôt ce qu'on n'allait pas tourner, donc d'arracher les feuilles, et tout. Et puis j'avais trouvé je dis ça rapidement, l'atmosphère du plateau, j'avais raison de m'en méfier, c'est vraiment des petits mecs à la con, quoi. C'était des
entre Trintignant et Jean-Yann?
Non, pas des acteurs. Non, le plus grand amour et respect pour les acteurs. Non, cette espèce d'ambiance un peu virile, la Légion saute sur Colvézi, quoi. Oui,
et puis on attend la bleuzaille, quoi. La bleuzaille.
Oui, c'est possible, mais tel que vous, même ça, bref, j'ai pas aimé ça du tout. Donc, je me suis dit que c'était la dernière fois, et je suis retourné. J'ai pensé pouvoir retourner à l'écriture, et en fait, bon, comme on dit vulgairement, j'ai remis le couvert mais j'ai quand même mis deux ou trois ans à m'en remettre.
Oui, mais ça, c'est une marque dans votre filmographie. Si on balaye tous vos films, les 8 longs métrages, donc 8 longs métrages entre aujourd'hui, Les Frères Sisters, qui sont donc sortis au mois de septembre, et en 94, Regarde les hommes tombés, il y a 8 longs métrages parce qu'ils sont tous échelonnés entre 3 et 4 années. Au début, c'est 4 années, enfin, au début, 2 années, et puis après, c'est 4 années.
Il y a 2 années entre le...
Oui, entre Regarde les hommes tombés et puis...
Ce qui s'est passé sur Regarde les hommes tombés, c'est allé bizarrement plus vite que dans mon souvenir, parce qu'il y avait cette chose un peu singulière quand même sur Un héros très discret, c'est que Un héros très discret a été écrit avant Regarde les hommes tomber. C'est que j'avais déjà fait tout un... On avait fait avec Alain toutes les choses, parce que comme on avait besoin d'argent, on s'est dit, tiens, on va le temps que Didier Hautepin cherche les sous pour Regarde, on a peut-être le temps d'écrire un truc, on va vendre un traitement. C'est exactement ce qui s'est passé, ce qui est quand même assez rarissime. Et donc le producteur qui n'a pas réussi à monter un héros très discret est venu me chercher 2 ans après, et j'ai accepté.
Le cinéma est un univers que vous avez dû réenchanter pour pouvoir y travailler, puisque vous êtes né au cœur même du cinéma, et vous avez souvent dit qu'il était tellement présent, il était tellement là, il était tellement viscéralement présent dans le quotidien, que pour pouvoir en faire et avoir une démarche propre, il a fallu peut-être le réinventer ou le réenchanter.
Oui, sans doute, je pense. Sans doute, d'autant que ce qui m'apparaissait à l'époque, mais encore plus singulièrement aujourd'hui, c'est que, puisqu'on parle là, essentiellement des rapports avec mon père était d'obédience littéraire, il n'était pas de l'obédience cinématographique. Et donc, ça relativisait considérablement le métier cinématographique. C'était pas, et d'ailleurs, c'était un métier. Dire que c'était un gagne-pain, oui, c'était un gagne-pain. Mais ça, c'est vraiment la question, on aurait pu la poser à tous les scénaristes de l'avant-guerre et de l'après-guerre. Mmh. C'était tous des gens.
C'était des écrivains, oui.
Oui, c'était des écrivains qui écrivaient. Je pèse mes mots, je mets des guillemets, mais par défaut pour le cinéma.
Je me souviens de l'avoir vu chez Bernard Pivot. Il parlait de Bernanos, il parlait de Laclos, et le cinéma n'était pas...
C'est vrai, après ça peut paraître singulier, mais comment le conseil de mon père, dans le conseil de mon père, il y a très très peu de films, en fait. Il y a Wells, il y a des choses comme ça, mais sinon, le conseil littéraire est considérable, absolument considérable.
Oui, puisque lui, c'était l'inventeur de langue. C'est-à-dire, c'est vraiment, il invente une langue comme un écrivain.
C'était un grand lecteur qui avait une mémoire éléphantesque. C'était un jukebox à poèmes, quoi. On mettait un jeton et vous aviez un grand bout d'Apollinaire qui descendait dans le limonaire.
Quant au scénario, c'est pour vous aussi la découverte de la liberté totale, c'est-à-dire une espèce de champ énorme. Vous êtes plus limité par... les contraintes, justement, psychologiques, matérielles.
Je ne sais pas si je comprends bien la question.
Pardon. La violence. C'est-à-dire que vous avez déclaré ça, que le scénario était pour vous la découverte d'une sorte de grand champ d'ouverture, de grande liberté, de grande puissance. Votre puissance, je veux dire, de créer était réfrénée par rien, puisqu'il y a la page et puis on...
Ouais, c'est bizarre parce que je me demande si je dirais pas exactement pas par souci constant de contradiction, mais si je dirais pas vraiment l'inverse, c'est que je pense que je trouve que le scénario est intéressant justement dans la contrainte, dans la projection, dans soit l'établissement de contrainte ou la projection dans la contrainte. Et d'ailleurs, je crois que quand on pourrait rentrer plus, je sais pas si c'est le moment, si on pourrait rentrer plus dans le moteur, dans le moteur scénaristique. C'est parfois je me dis que il ne faut pas que je le dise, que je le répète trop à mes producteurs, parce qu'ils vont, me censurer méchamment. Mais je crois qu'il y a une étape du scénario. D'abord, je pense que tout scénario, quel qu'il soit, est une adaptation. C'est une adaptation de quelque chose. Parce que le médium qu'on utilise, c'est les mots, et on écrit pour des images, quand même. Donc, ouais. Et je crois qu'il y a, toute une étape d'écriture dans le scénario où on va établir de manière la plus rationnelle possible, la plus dynamique possible, une histoire qui irait de A à Z. Et il y a une autre étape, qui est encore le stade de l'hyper-adaptation, où de ça, on va s'écarter considérablement, on va créer des trous, et c'est là, créer des trous, par des contraintes, c'est dans ces trous-là qui vont créer le cinéma, cette espèce de tremblement, où on va échapper à une sorte de linéarité frontale et plate du récit.
C'est pour ça qu'à partir de votre troisième film, qui est Sur mes lèvres, vous arrivez toujours sur les plateaux avec ce que vous appelez le cahier B.
Oui, bien sûr.
Qui est un cahier avec des scènes en plus. Donc d'un côté, il y a un scénario parfait, enfin je veux dire qui va du début à la fin du film. Et puis vous avez ces scènes en plus et ce moment où on va tout à coup pouvoir écarter, faire bâiller le scénario.
Oui,
pour...
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en plus, c'est appliqué... Moi, comment je... j'ai une contrainte avec laquelle une autre contrainte avec laquelle je me débat, c'est que puisque je suis auteur donc scénariste, je vais écrire. J'ai passé 2 ans plus de ma vie à écrire quelque chose et tout à coup le tournage arrive et il va falloir que j'ai une espèce de position d'innocence à l'égard de ce que j'ai écrit, ce qui est un paradoxe parfois très très difficile à surmonter. Et donc je vais passer beaucoup de temps finalement à me démener contre le scénario et parfois de manière totalement inutile, contre-productive et un peu hystérique.
Donc c'est le mur contre lequel on rebondit.
Oui, alors ce que j'ai découvert à un moment donné, c'est que plutôt que de faire des d'abord, ne jamais répéter le texte du film, jamais. C'est un texte qui est usable, qui est fragile, et justement essayer de garder le plus possible d'innocence face à cette chose-là. Une fois que l'acteur va arriver ou l'actrice va arriver avec ses mots, et donc ce que je faisais, c'est les répétitions. Je partais sur des arguments d'improvisation, enfin une ligne écrite sur un truc. Les acteurs développent, improvisent. Que ça m'amène un texte que je vais commencer à mettre en forme, mais jamais en forme non plus complètement tout à fait. Et ça, à l'arrivée, ça me donne ça, et même ou même des et donc ça c'est ça me donne tout un matériel de scènes qui ne sont pas dans le récit du film, qui ne servent en rien du tout le récit du film, qui peuvent éventuellement même le contredire, le ralentir, mais qui servent énormément à quand elles ont leur place dans le montage, elles servent beaucoup les personnages. Elles les déplacent un peu par rapport au cours du film.
Vous avez un exemple comme ça d'une scène?
J'en ai un qui est assez singulier. La première scène d'ouverture de Debattre, mon cœur s'est arrêté. C'est une scène avec Gilles Cohen qui raconte tout le motif du film. Hein,
voilà, oui, c'est gros, ça.
Et qui est c'est une scène où bon, c'était assez marquant parce qu'effectivement il y avait très très peu d'arguments. Gilles est parti dedans avec Romain et puis au sens c'est une scène qui est vibrée, qui est cardiaque. On n'a pas pu en faire beaucoup. Je pense qu'il y a dû y avoir 2 scènes. Il y a un engagement du comédien dans quelque chose qui se sent. Il y en a d'autres aussi dans Un prophète. Je peux plus vous dire lesquels, mais alors il y a des films qui refusent absolument ça parce que leur construction est trop serrée. Et alors je continue avec mon système, mais mon système, je n'arrive pas à le placer. Ça vient du fait que la trame scénaristique est trop, les mailles sont trop serrées.
Effort and play it like Doodle wants to. Get on with the marching here.
In the snail pad tree, just a munching clover.
Porto Cantes, un extrait de la BO de Debattre mon cœur s'est arrêté. L'invité de Mauvais Genre ce soir sur France Culture, c'est Jacques Audiard. Alors, quand on a préparé cette émission, Jacques Audiard avec Philippe, on est vite venu à l'idée que sur au moins les 8 longs métrages que vous avez tournés, c'est surtout la recherche éperdue, continuelle, toujours reprise, toujours remise en question, d'une espèce de vision de l'homme, un cinéma qui a une forte, par moment, une forte densité sociologique, puisque tous les personnages sont socialement dans un social très noir, très lourd, très violent, très marqué d'un côté, mais ça n'est pas un cinéma sociologique. Par moment, l'histoire fait son apparition, un héros très discret, ou alors Dipane. Là, l'histoire est là, les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, la guérilla tamoule, et puis aujourd'hui la crise des cités. Donc, mais ça n'est pas un cinéma historique. On a l'impression qu'au-delà de tout cela, vous cherchez véritablement une sorte de réflexion purement anthropologique sur qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'un individu, comment peut-il réagir, comment peut-il se construire, échapper ou mourir.
Oui. Je prends tout ce que vous dites. J'ai beaucoup de mal, en fait. Je crois que c'est pour ça que la critique existe d'une certaine façon. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à avoir une représentation synthétique de ce que j'ai pu faire, des films. Et même quand je dis ce que j'ai pu faire, parfois j'ai un souvenir déjà presque, c'est très lointain des films. Alors ce que je vois quand même, s'il y a une constante, il y a toujours ce problème de... Vous voyez, j'ai presque honte, hein. Enfin, c'est cette question de l'héritage et de la possibilité de y a-t-il une vie après l'héritage, y a-t-il une vie après les, enfin bon, bref, à combien de vies a-t-on le droit? Alors ce thème presque ça doit être répertorié dans les manuels de dramaturgie, mais de reconstruction du héros. Vous savez comment il y a notre grand Stanley Cavell, bien sûr, bon, sur la comédie de remariage, ce truc du scénario deux fois et de la deuxième fois autrement, et avec cette idée de y a-t-il une autre vie, en d'autres termes, y a-t-il une autre chance, et combien ça coûte, le combien ça coûte étant le lieu dramatique du film, ou le lieu parfois tragique du film.
Ce qui fait que parfois on a le sentiment effectivement que c'est un cinéma sur la deuxième chance, sur la capacité à pouvoir relancer les dés, à rejouer, mais on connaît pas la première. Oui. Quand on voit par exemple Johnny arriver dans Regarde les hommes tombés, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient.
Très abstrait, ou ça peut être aussi, si je veux dire, parce que tout à coup vous me rappelez ça, mais ça peut être aussi le début de Derouille.
Oui.
Mais ça a forcément une histoire, vous savez, ça veut dire que je pense que c'est le moment où on est passé d'un scénario de 150 pages, 160 pages, à un scénario de 90 pages ou de 100 pages. Et on se dit, tiens, on va faire cette exposition là, vous en êtes sûr? Qu'est-ce que ça va être narratif, descriptif, voilà. Donc c'est à ce moment là que le cinéma arrive, c'est dans le trou d'une certaine façon, c'est
dans ce vide qui est avant le personnage.
Et ça, la question par exemple, c'était posé, excusez-moi, je continue à parler de moi, c'est après tout j'ai une heure. Et la question s'était posée aussi de manière très très forte sur un prophète. Comment il est défini comment au début, ce personnage? Est-ce qu'il est défini comme arabe, comment? Alors non, c'est dire, je trouve que c'était une étape scénaristique importante. On s'est dit non, c'est ce qui le définit, c'est SDF, c'est sans domicile fixe ou sans identité fixe.
Mais c'est ça,
ou,
oui.
Voilà. Et que je me souviens que tard au début, ça peut être vraiment vraiment n'importe qui, de manière socioculturelle, quoi.
On sait de lui qu'il a frappé un flic, c'est
oui,
tout.
On sait qu'il y a eu une chose grave qui mérite une grande peine, mais lui, c'est partir d'une indéfinition. Il va aller vers les musulmans, mais par calcul. Une chance lui est donnée. Avant, il est corse, après, il va être musulman. Chez les corses, il n'est pas corse, chez les musulmans, il n'est pas arabe.
Mais ce qui est très intéressant d'ailleurs avec un prophète, se pose une question très technique, c'est que la double exposition, c'est-à-dire que il arrive et il y a cette exposition de ce personnage sans identité fixe, et puis après le film va presque démarrer une nouvelle exposition où il s'agit de révéler le clan corse à l'intérieur de la prison.
Ça, c'était... vous savez, il y a des scénarios... c'est un scénario dur, d'un point de vue technique, dur à écrire, un prophète. Parce que on savait que... Bon, ça, c'est 6 ans dans la vie d'un homme, d'un jeune homme, 6 ans dans une prison. C'est-à-dire, la prison, c'est un présent sans cesse répété. Comment vous faites s'écouler le temps dans la prison? C'est tout ça. Et en fait, ce qui nous est apparu, assez vite à Thomas Bilguin et à moi, enfin, assez vite, non, rien ne s'est fait vite dans Sa Prophète, mais donc c'est apparu à un moment donné. C'était en fait, mais puisqu'en plus, c'était un film qui forcément allait durer longtemps, de 2h30, c'était vraiment le 2h20, 2h30. Et c'est difficile d'être dans une structure dramatique en actes, 3 actes, 4 actes, comme ça. Mais la prison, il se passe rien. C'est le présent sans cesse répété. Et en fait, c'est là qu'on a eu cette idée de je sais pas, c'est pas une idée forcément géniale, mais cette idée d'une division en chapitres comme dans la série télé, quoi. C'est pour ça que le film est chapitré. C'est que ça nous permettait justement de créer des gaps entre chaque chapitre et de faire passer et de faire vraiment des sauts temporels.
Avec des espaces et des lieux qui sont souvent très cloisonnés, très fermés, un peu comme des personnages qu'on a sous la loupe. Les personnages échappent rarement.
Il y a un côté un peu, oui, c'est ça, laborieux.
Ils sont jamais livrés à des espaces énormes. Ils sont jamais
dans Un Prophète ou en général.
En général,
oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une chose que je suis obligé de constater. Alors, je ne sais pas si je m'y fais, mais. Je trouve que je pars sur chaque tournage avec une résolution que je ne tiens pas. Je vais être plus descriptif et faire des transitions. Mais je ne le fais pas.
C'est un peu comme dans les films de boxeurs. Il y a d'abord une scène dans la loge, le genre de préparation. Et puis, il y a tout ce moment où on l'accompagne dans le couloir, où il est entre l'entraîneur et les photographes et tout. On a l'impression que c'est un peu ça. Votre cinéma aime bien ce moment où on est entre la loge et le ring, dans un moment de tension.
Oui, c'est possible, ce serait ça. Mais je me suis posé ces questions-là. Mais à mon avis, dès le premier film, après, c'est des choix d'esthétique que vous faites. Et ils vont, moi, je sais que j'en ai... peut-être malheureusement pas énormément varié. C'était à partir de l'isolement de la partie, de laisser l'imagination recomposer l'ensemble. Ouais, pour moi, ça serait ça, en fait. Je sais pas si c'est bien clair, mais ce serait, et que quand, à chaque fois que je me suis mis, moi, en demeure de filmer l'ensemble, parce que mon système de pensée, peut-être mon système de forme ne correspond pas à ça. Ça n'a vraiment pas de sens. Vous voyez, faire un plan, une voiture arrive, hop, je découvre la voiture, hop, pour moi, c'est des choses, c'est de la boue.
Mais c'est aussi comme ça, je crois, que se construisent vos scénarios.
Alors ça m'empêche parfois, j'ai des problèmes au montage quand même assez régulièrement, c'est le temps d'admettre, c'est que dans les premiers montages, mais les films que je réalise sont souvent très, ça respire pas, quoi, c'est en bois.
Oui, mais alors, ce qui est amusant par rapport
au premier montage, ça peut
par rapport au montage, parce que vous ne regardez pas les rushs. Et ce qui est très intéressant, c'est que
j'ai pas forcément raison, Philippe.
Mais vous avez quelqu'un qui le fait pour vous et depuis le début.
Pas depuis le début.
Vous aviez demandé sur le premier film à Alain Le Henry de le faire.
Ah bon?
C'est ce que vous avez.
Ah oui, c'est non, ce que vous non, avez... non, non, oui, je vois ce que vous voulez dire, mais c'est parce que comment le rapport que j'avais à ce moment-là avec Alain, idem avec Didier, impliquait contractuellement, naturellement ou amicalement que ça le fasse. Après, c'est autre chose. Pour avoir fait de la publicité, j'ai vu comment travaillaient les équipes publicitaires, où il y avait vraiment une espèce de division du travail que je ne connaissais pas au cinéma. Et notamment, je sais pas trop comment appeler ça, conseiller artistique, bref. Et j'ai éprouvé ce besoin-là à partir de débattre, je crois, où j'ai eu besoin.
C'est Thomas Bilguin qui le.
Au début, c'était pas Thomas, c'était un autre Thomas, c'était pas Thomas, et Thomas vient juste derrière. Ouais. Et c'est quelqu'un effectivement qui me sert moi à faire de la synthèse. En fait, c'est ça. C'est plutôt voilà.
C'est un peu la place du dramaturge au théâtre.
Parce que ça peut être ça, mais vous savez, ça peut être appliqué au choix des costumes, ça peut être appliqué au choix des chaussures, au choix d'un paysage, aux acteurs. C'est ça. Donc Thomas, c'est quelqu'un que je fais que je fais intervenir tout le temps. Mais moi, ça me dégage ça vous permet de ne pas vous égarer dans le détail. Parce que je trouve que tout est fait dans la machine cinématographique, dans cette espèce de gros outil. Tout est fait pour vous distraire un peu de l'essentiel.
Et ce qui est très intéressant, c'est que vous travaillez toujours avec la même monteuse, c'est Juliette Weffling, depuis le début. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui doit avoir l'habitude de ces problèmes que vous évoquez au montage, le côté trop,
oui, je pense, oui,
trop sec, et elle anticipe, elle anticipe.
Anticiper, c'est comment Juliette a. On a pour habitude de vraiment le premier montage, c'est vraiment le montage de Juliette. Oui, ce que je veux dire, puisque j'ai pas vu les rushs, puisque j'ai pas fait les choix, c'est elle qui fait tout ça. Et puis après, on reviendra sur le métier. Et c'est elle qui fait ça. Et alors après, enfin, je sais pas trop. Il faudrait lui poser la question, mais elle peut pas anticiper. En fait, d'une certaine façon, elle vit ça presque comme une fatalité. Oh, encore. Non, faut lui poser la question. Je sais pas.
Et alors, je me demandais si c'était pas lié aussi au fait que vous avez besoin de construire ce que vous filmez. C'est-à-dire que, bien sûr, vous avez construit la prison. Enfin, bien sûr, il se trouve que vous avez construit la prison d'un prophète. Vous aviez pas pris une prison qui était déjà là, mais même sur le dernier, sur les Frères Sisters, on vous a proposé des villages westerns déjà prêts, etc. Vous avez été en Espagne, en Roumanie, construire vous-même, et je pense que ça fait partie de du geste de la mise en scène.
Oui, je pense que, pour résumer, oui, absolument, vous avez raison, c'est que je suis peut-être plus à l'aise dans quelque chose qui... Mais en tout cas, comment je suis plus à l'aise dans le fait d'avoir déterminé par avance sur quoi, même si je fais autre chose. Après, quand même, on parle pas de lieux indifférents. Ouais, c'est, si vous avez visité des établissements pénitentiaires, ce qui moi était vraiment le cas, parce qu'on cherchait un endroit où se mettre. Où faire... la première chose qui vous frappe quand vous entrez dans une prison, c'est que le présent vous écrase. Enfin, le présent réel, le réalisme, c'est, j'en parle en termes esthétiques abrutis, mais le réalisme de la prison est là, vous écrase. Donc, à un moment donné, il va vous manipuler, il va vous, et donc là, la question qui se pose à vous, est-ce que vous documentez du réel, ou est-ce que vous documentez de la fiction? Moi, je serais plutôt du côté de la fiction. Et que, parce que je me serais fait probablement vampire. Là-dedans. Et puis après, les westerns, ça, c'est autre chose. Quand vous êtes européen, quand vous êtes français, en plus, plutôt, alors là, pour le coup, même parisien, si des films parisiens, je ne me sens aucune légitimité au mythe américain, au western. Donc, je ne me sens aucune légitimité, puisqu'en plus, ce n'est pas un genre que je révère, hein, c'est pas, donc, je vais me sentir libre. Et donc, je vais considérer qu'un western, c'est un film d'époque, et je fais un film d'époque. Voilà, c'est pas...
Mauvais genre sur France Culture qui reçoit ce soir Jacques Audiard. Alors on a évoqué effectivement votre trajet vers le scénario d'abord, puis la réalisation ensuite, la manière de construire un film, d'en déterminer le rythme, le souffle, les lieux, l'écriture. Parlons maintenant des acteurs, parce que vous êtes bien évidemment un formidable créateur de personnages et par là même directeur d'acteurs, avec des personnages violemment incarnés. C'est-à-dire que vous les poussez souvent dans des retranchements terribles.
notamment bah, je pense, Carla dans Sur mes lèvres, la surdité, Marion Cotillard dans De rouillé d'os, c'est l'amputation qui détermine toute une...
Comment vous définissiez mon usage que vous...
Violemment.
Oui, bah c'est des corporéités violentes, si j'ose dire.
C'est marrant. Oui,
c'est... Dans De rouillé d'os, c'est aussi le boxeur qui est quand même un personnage qui sauve son fils à coups de poing, ah, en cassant la glace. Enfin, il y a un rapport au corps qui est...
Ça, il y a quelque chose. Oui, d'accord. D'abord, j'aime les acteurs. Donc, les acteurs, c'est des acteurs, les actrices, c'est des corps. C'est des... Mais après, moi, j'ai envie d'aller dans autre chose. C'est comme si j'avais une autre question dans votre question. Ah
bah, allons-y.
C'est qu'est-ce qui fait que vous allez choisir une telle pour tel rôle et un tel pour tel rôle et pas un autre, hein. C'est que je crois qu'il y a, c'est bien sûr le talent. C'est absolument le talent, un talent qui vous a ému à tel ou tel moment. Voilà. Mais si je prends l'exemple de... Je vais prendre deux exemples, je peux en prendre plusieurs, mais je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'exemple d'Emmanuel De Vos. C'est une actrice que j'adore, qui m'a bouleversé dans les films d'Arnaud, que j'ai vu au théâtre. Voilà. Mais elle a une certaine place. Dans le cinéma, elle a une certaine place. C'est un second rôle absolument formidable, dont le physique n'est pas mis en valeur. Et moi, quand j'aime Emmanuel et que j'ai choisi à ce moment-là, j'ai choisi exactement pour tout ça. C'est quelqu'un qui est à une pointe de sa carrière et qu'on va la pousser au-delà du, on va la faire rouler dans l'autre pente. Voilà. Quand je suis depuis des années le travail de Romain Duris avec Cédric Clapiche, tout ça, et quand je viens vers lui, je n'ai pas beaucoup d'autres idées, hein. Je viens vers lui, c'est parce qu'il incarne, pour moi, il incarne tout, il incarne comme Emmanuel De Vos, il incarne tous les rôles qu'il a déjà incarnés. Il est ça. De battre mon cœur, c'est ce que je vois, c'est le moment où il doit quitter la post-adolescence pour passer. Et c'est à chaque fois le sujet du film, quand même. C'est de faire cette concordance-là. En fait, c'est pour ça que les castings, en tout cas en ce qui concerne les films que j'ai fait avec des acteurs français, vont très vite. C'est que je crois que c'est fait d'un ensemble de choses. Un ensemble de choses. Si je prends aussi, je pourrais parler. Alors ça c'est peut-être une autre donne. Mais Nils, il doit faire un
Strup.
Nils Arestrup, il doit jouer donc un capot corse, un truc comme ça. Je crois qu'il est d'origine danoise, c'est un peu particulier. Donc, avant ça, je vois beaucoup d'acteurs corses. Bon, ouais. Mais si je vais là-dedans, je vais vers un lieu commun, un lieu commun qui est presque indécelable à l'échelon d'une cour de prison. Tandis que demander à aller vers Nils, c'est proposer une alliance qui est très très singulière. Il n'y a pas plus lointain de Nils que le devenir corse ou mafieux. Et donc c'est quelque chose qui va opérer lui entre le travail qu'il va devoir faire pour ça et la représentation physique qu'il donne. Il y a quelque chose va se voir, quelque chose va brûler, va éclairer un petit peu.
En même temps, Nils Arestrup, à ce moment-là, dans Un prophète, on se souvient qu'il est le père de Romain Duris dans De battre.
Et oui, c'est vrai.
Et qu'il y a une relation de transmission qui peut être retravaillée, pervertie, parce que le spectateur, enfin un certain nombre, s'en souvient.
Bien sûr, mais je pense que ça, je ne sais pas si ça... Oui, vous avez raison. Mais pour moi, ça a assez peu joué. C'est que je... Ça a plus joué de la façon dont je vous le disais, oui. le fait que et puis surtout c'est le fait que j'avais énormément envie de retravailler avec Nils.
Mais ce qu'on retient dans ce que vous dites, c'est que
n'importe quel prix,
c'est la construction. C'est-à-dire que vous construisez quelque chose direction d'acteur.
Ce que je voulais vous dire, oui, c'est ça. C'est un ensemble finalement assez complexe. Un choix d'acteur à un moment dans un sujet. C'est interaction entre le destin du personnage et le destin de l'acteur ou de l'actrice. C'est toutes ces choses-là. C'est comme Marion dans De rouillé d'os. J'aurais pu prendre quelqu'un d'autre. J'avais d'abord très envie de travaillé avec Marion, qui avait une espèce de chose que j'avais vue dans plusieurs films, faisait très envie. Mais là, pour moi, c'était l'occasion. Parce que si j'avais pris une autre personne, une personne pas connue, ou l'équivalent d'un tarte, c'était un accident du travail. Ça n'a pas...
C'est les jambes de Marion Cotillard.
Oui, c'est l'absence des jambes de Marion Cotillard qui va faire. Et elle est, quand elle joue ça, elle est quand même toute pleine de ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est pas... Elle sans jambes.
Et par contre, pour...
sans jambes et devenant donc, au sens, véritablement un objet de désir sexuel assez délirant.
Par contre, pour un prophète, un type qui a pas d'identité, vous prenez un acteur pas connu. Voilà. Et vous allez, lui donner une identité d'acteur.
Mais voyez,
c'est un rime.
Bien sûr, il va faire son idée d'acteur, et pour moi, ça, c'est une chose qui est merveilleuse. C'est que les gens qui ont, effectivement, dans un prophète, ça a identifié un nombre de nouveaux acteurs. Vraiment, ça, c'était, ça, je trouve, c'est le succès du film pour moi.
On parlait de Nissa Estrup. Comment le dirige-t-on ? Parce que le personnage qui donne l'impression d'une espèce de lion solitaire, dont la moindre, dont la proximité immédiatement déclenche. Ouais, c'est un peu comme Jean-Yann au début.
Oui, il faudrait lui. Non, sauf que j'ai pas les mêmes rapports. Jean, c'était vraiment à la. C'était pareil. Ouais. Il était pas. C'était dur, Jean, parce qu'il était très cynique, tout ça. Et au bout d'un moment, au bout de la deuxième semaine, vous êtes fatigué, quoi. Moi, ça me fatigue un petit peu. Après, c'est vraiment quelqu'un que j'aimais. Il était fatigant. Nils, c'est des acteurs pour moi comme Trintignant. Je sais pas. C'est d'abord, c'est des voix qui sont. C'est du velours. Quoi. C'est un ogre avec une voix. Et puis c'est un acteur. Au théâtre, il était sublime. Et alors donc, je sais pas. Alors avec Nils, parfois je... Nils, il peut piquer, il peut piquer des colères comme ça, mais je trouve que le réalisateur, il est là pour supporter la colère. Moi, je ne sais pas faire ce que fait Nils, ce que fait Marion. Je sais. Et alors parfois, c'est ce que vous demandez est compliqué, c'est difficile. Alors l'acteur se débat et vous gueule dessus, mais vous êtes là pour ça. Hein, ça, je vous le garantis, vous êtes absolument là pour ça. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument accepter. Moi, Nils, je l'accepte. Et c'est quelqu'un qui, dans le jeu, Nils, il m'a fait réaliser, en fait, quelque chose. Alors, je sais pas si ça tient vraiment à lui, mais c'est comment Nils, dans la construction qu'il va faire d'une scène, il va se rendre maître du temps de la scène, de la temporalité de la scène. C'est lui qui va distribuer les temps. Et ça, je trouve que c'est magique à voir.
C'est d'ailleurs presque ce qu'on voit faire en direct dans le deuxième film avec lequel vous travaillez. Dans Un Prophète, on le voit littéralement distribuer les choses.
Ah oui, bien sûr, absolument. Ah oui, mais ça, oui, d'accord.
Dans la cour, c'est-à-dire que là encore, il y a presque une mise en abîme de ce qu'est l'acteur à l'intérieur du personnage.
De ce qu'il est, de sa façon de jouer. Et il y a quelque chose, Nils aussi, mais qu'on peut retrouver chez d'autres acteurs. Vous savez, il y a des acteurs qui se fondent dans le personnage, genre acteur studio, qui se mettent dedans comme ça, puis ils vont être le personnage. Et vous avez des acteurs qui sont très 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 incarnés. Et en fait, leur jeu, ça va consister à rentrer dans le personnage, mais dans la scène même, à rentrer dans le personnage, à ressortir du personnage, à revenir. Ça, vous avez Nils, c'est ça. Nils, il est toujours Nils. Un Depardieu, c'est ça. Il est toujours. Alors vous le voyez comme ça. J'ai vu ça aussi avec Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, il est incroyablement phénixien. Alors, ce à quoi vous allez assister, c'est à ça, comment il va tout à coup rentrer, disparaître dans le personnage, et puis, ouf, il va réapparaître. Et ça, je trouve, c'est assez éblouissant.
Alors, Joaquin Phoenix, c'était dans Les Frères Sisters, mais à l'origine des Frères Sisters, rappelons-le, c'est John C. Reilly, qui donc joue son frère, et c'est lui qui vient vous chercher, et je pense qu'il vient vous chercher pour cette relation que vous avez avec les acteurs. C'est-à-dire que lui, peut-être, a envie de changer de place dans le cinéma.
Lui, il a envie de changer de place. Il a envie de effectivement, il a envie de bouger. Il est très très mis dans un coin par la production hollywoodienne. Hein. C'est comment ça va être les seconds rôles à vie, des trucs comme ça. Il a envie d'autre chose. Et donc et c'est pas Hollywood qui va le lui proposer. Donc il vient avec un sujet, avec un rôle pour lui, et il me propose ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je comprends ça.
Jacques Audiard, notre rencontre va vers sa fin. Une constatation.
Comme le temps passe.
Eh oui. Une constatation. Vous ne faites pas de film noir. Le film noir, les personnages n'arrivent pas à se désempoisser, à s'arracher.
Non, c'est pas de, non.
Chez vous, ils s'en sortent à la fin.
Il faut quand même que cette idée que j'ai, comme ça, que je festonne depuis longtemps, même inconsciemment. Il faut que je sais pas comment le pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la réconciliation dans le cinéma. Il faut que ce soit, en tant que spectateur, c'est, quel que soit le cinéaste, j'aime bien ça. C'est pour ça que je peux avoir, moi, des problèmes avec des cinémas de genre, gore, des trucs comme ça, où je trouve que c'est, le fatalisme est enfantin. Ouais, c'est pas, ça restera, c'est une maxime. Dans le marbre, s'il vous plaît.
Monsieur Rouillet.
Bah, on en restera là, donc,
c'est pas possible. Le fatalisme est enfantin.
On va méditer ça pour la suite.
Merci Jacques Audiard d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. Nous terminons cette émission, bien évidemment, avec Christophe Beer et un de vos confrères. Je vous laisse le plaisir de le découvrir.
Imposant, lourd, 680 pages reliées, richement illustrées, Jean-Pierre Mocky, une vie de cinéma de Laurent Beignayer et Philippe Sichler, aux éditions Neva, est ce qu'on appelle un beau livre, comme on les réserve pour les cinéastes les plus importants. Mais l'ouvrage est curieux. À grands traits, des pages biographiques introduisent les décennies dans lesquelles le cinéma prend vite toute la place, depuis les premières figurations sous l'occupation jusqu'au dernier long métrage, réalisé en 12 jours en juin 2017, « Votez pour moi ». Le 67e titre d'une filmographie fleuve, sans compter plus d'une cinquantaine de cours pour la télévision, commenté à la manière d'un immense dossier de presse. Les auteurs discrets apportent des précisions, fournissent des fiches techniques pointilleuses, de quoi rassasier les maniaques en quête du moindre petit rôle non crédité au générique, et indiquent le nombre des entrées. Ils proposent pour chaque titre un bilan de l'accueil critique avec à l'appui une orgie d'extraits de presse fournis par le cinéaste, sans trier les admirateurs des détracteurs. C'est le cœur de l'ouvrage, la relation de Mocky avec la presse, au gré des modes et des sympathies, des malentendus, des abandons. Mocky a toujours divisé. La violence hystérique d'Olivier Barrault s'oppose à l'enthousiasme de Jean-Louis Bory dans Le Nouvel Observateur, qui encense la vision surréalisante de la cité de l'indicible peur, où Balzac loucherait d'un œil vers Kafka, de l'autre vers Jarry. Dans la juxtaposition des papiers des revues de cinéma, des grands quotidiens de Paris et de province, des hebdos politiques et des magazines TV, passant de Minute à La Croix, Paris Match, Téléstar, Les Nouvelles Littéraires ou L'Équipe, le lecteur est frappé par les sempiternels procès en laideur, en vulgarité, en bâclage. Les années 2000, qui consacrent le système autarcique de Mocky, sont négligées par une critique qui invoque désinvolture et déclin. On souhaiterait parfois une analyse critique franche des auteurs du livre, développant la vision absurde de Mocky, sa rage au vitriol, sa maîtrise de la course-poursuite, son goût des gueules, mais aussi la réévaluation de cette dernière période qui compte quelques éclats et le glandeur, inclassable et radicale errance, l'une de nos meilleures comédies. Olivier Assayas écrivait dans les cahiers « Qu'y a-t-il un Français dans la salle ?» était salutaire en ces temps grisâtres de qualité française retrouvée, de films instructifs et de dictature du casting. Les 60 ans de critiques négatives de Mocky, ainsi réunis sans filtre, font la démonstration d'une corporation toujours prompte à célébrer le FCFQ, ce foutu cinéma français de qualité que Mocky dépasse.
Merci Christophe Beer. Vous imaginez un livre qui vous serait consacré, Jacques Audiard, de 690 pages reliées avec tous les dossiers de presse?
Non, je n'imagine pas du tout.
Ce serait autre chose. Un livre sur Jacques Audiard, sur quelle forme, des entretiens,
non,
des photos?
Rien du tout.
Rien du tout.
Rien du tout.
En tout cas, merci d'avoir été l'invité de Mauvais Genre. Je vous le redis. Et merci infiniment. Merci. Et puis tous vos films, bien sûr, sont disponibles en DVD.
Et j'incite les gens à regarder les bonus, car ils sont toujours très intéressants. Jacques Audiard est un des rares réalisateurs à avoir la générosité de proposer des scènes coupées qui sont réellement des scènes coupées, qui ne sont pas simplement des scènes très réussies, mais qui ralentissaient le rythme, mais qui explorent d'autres directions qui ont été abandonnées, et c'est toujours très très passionnant.
Merci Philippe, et merci Jacques Audiard d'avoir été l'invité ce soir de Mauvais Genre. On vous retrouve la semaine prochaine pour un deuxième temps de nos entretiens et de notre rencontre. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Olivier Dupré, Siam Boutata, Claire Martin Dugard, Céline Duchesnet, Philippe Rouillet, Christophe Beer et François Gellier vous remercient d'avoir suivi cette émission. À la semaine prochaine, de nouveau avec Jacques Audiard.